Je vous invite à la prière. Seigneur, en t'écoutant ce matin à travers les frères et sœurs, je vois que tu as parlé au cœur, à mon cœur, moi le premier. Seigneur, tu es là des fois qu'on ne t'attend pas. Merci pour ce partage fraternel qui porte des fruits dans nos cœurs et dans mon cœur le premier. Je remets entre tes mains le message d'aujourd'hui, de ce matin, et encore une fois, même s'il est fait d'une manière subjective, personnelle, Seigneur, je te prie de le transformer pour que chacun de mes frères et sœurs puisse recevoir ce qu'il doit recevoir. Que chacun de mes frères se reçoive ce que tu as voulu, que chacun de mes frères se reçoive. Merci beaucoup pour tout ce que tu as préparé pour nous. Et je te prie de parler au cœur et que nous puissions prendre les choses avec sérieux. Car Seigneur, il s'agit de vie ou de mort, et je parle de vie ou de mort spirituelle. Dans le but et l'objectif est celui d'intégrer cette vie éternelle qui ne s'arrête jamais. Merci pour toutes choses et que ta volonté se fasse. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des fois, je me pose des questions en passant devant et je me dis, des fois on oublie, on peut passer pour des moralisateurs. Pour que vous sachiez que la personne qui est devant vous ne veut faire ni de morale, ni quoi que ce soit. Parce que si je veux faire de la morale, je dois la faire à moi-même. Donc, si j'ai cette tâche-là d'être devant vous, c'est de partager avec le maximum de sérieux que je peux avoir ce que le Seigneur peut mettre dans mon cœur, et lui seul peut mettre dans les cœurs ce qu'il veut. Alors prenez ce message comme un message d'humilité, le message je vais partager avec vous. S'il m'a parlé d'une manière, il peut parler différemment pour vous. Donc, le message, quand il est dispensé, quand il est donné, souvent l'orateur, il veut qu'il soit reçu comme celui, comme il le dit. Alors que non, le Seigneur veut qu'on reçoive son parole d'après sa volonté à lui. Et en évoquant avec vous l'exemple du bambou que j'ai découvert, je ne savais même pas que ça existait, au point que j'ai vérifié encore pendant le culte que ce que je disais était vrai, il existe bien, avec 30 mètres, etc. Et on ne se rend même pas compte de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. L'homme regarde aux apparences. Nous voulons voir les effets, nous voulons juger par nos yeux, par notre, on crée un cahier des charges et on dit si ça rentre dedans, hop, sinon. Et quand je pense que cette graine qui est dans la terre, pendant 7 ans, on ne voit rien et pourtant tout est à l'œuvre dans le secret, dans l'obscurité. C'est le message de la croix. Quand on reçoit la parole de Dieu, je dis bien recevoir la parole de Dieu parce qu'on peut recevoir des messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et cette graine, elle ne porte rien, pas de fruits. Mais si on a reçu réellement la parole de Dieu, elle porte des fruits. Au temps de Dieu, un jour, un mois, des années. Mais l'essentiel, c'est qu'au bout, il y a une racine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parabole de la semence qui croît, le verbe croître. Et en y pensant, quand je vais donner le message à nos frères et sœurs iraniens, ce matin, quand je me suis levé, et je me suis dit, regardez bien, il suffit, et j'ai regardé mon message que je leur ai envoyé, et dedans il y avait la semence qui croît. J'ai mis un point sur le i au lieu du chapeau, et la traduction n'a rien à voir. Dans la traduction qu'ils ont reçue, c'est la semence qui croît, qu'est la foi, croître, la croyance, foi. Alors que moi, le message que je voulais dire, c'est croître, la croissance d'un progresseur, passer d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Oui, comme quoi la traduction, on peut transformer le message juste par un point, au lieu d'un point d'un chapeau sur le i. Donc je présente toutes mes excuses à mes frères et sœurs iraniens. Voyez, les limites de l'homme. Alors notre message aujourd'hui, parce qu'on avance dans l'évangile de Marc, et on est dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Je vais le lire, nous allons le lire ensemble. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà notre parabole aujourd'hui. J'étais un peu prétentieux en discutant avec Toby. On a même défini les messages, etc. il doit intervenir. Je lui dis, aujourd'hui, je vais parler de cette parabole, plus la parabole suivante sur le grain de CNV. Et quand j'ai terminé mon message, non, il n'y avait que la précédente parabole-là. Donc, comme quoi, mais c'était louable, hein, donc, mais on s'adapte. Notre passage concerne une parabole placée juste après deux paraboles que nous avons déjà évoquées ensemble dans le chapitre 4. Cette parabole, elle vient juste après la parabole du semeur et la parabole de la lampe. Et juste avant, la parabole du grain de CNV, on traduit des fois grain de moutarde, parce que c'est très petit comme grain. Toutes ces paraboles se complètent, ne se substituent pas. Voilà le premier message en lisant ces paraboles. Souvent on dit, le royaume de Dieu c'est soit ça, soit... Non, les quatre paraboles se complètent pour nous expliquer le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu que la Bible appelle aussi royaume des cieux. La parabole de la semence trouve son sens, comme je l'ai dit, avec les deux paraboles qui la précèdent dans ce même chapitre 4. Elle est en lien avec la parabole du semeur, rappelons-nous, et les quatre différents terrains qui reçoivent la semence et dont un seul est bon. C'est ce qu'on a dit. Parmi les quatre terrains, il y en a un seul qui est considéré comme bon. Rappelons que la semence dans cette première parabole est la même dans tous les cas. La même semence est plantée dans les quatre terrains. Et la différence entre le rendement dépend entièrement du genre du terrain où elle est semée et surtout reçue, c'est-à-dire dépend de nous. Voilà notre rôle. La semence est plantée. Mais donc, dans quel état dans mon cœur? La bonne terre permet à la semence de germer, de croître et surtout de donner beaucoup de fruits. La parole de Dieu nous dit que les bons fruits qui réjouissent le cœur de notre Dieu sont les fruits issus de notre repentance. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de fruits. En tout cas, les fruits dignes de la repentance. Une repentance que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Ça, c'est un secret que j'ai découvert aussi. Je ne peux pas fabriquer ma repentance. Car, si c'est le cas, si c'est une repentance que nous pouvons fabriquer nous-mêmes, cette repentance ne mène pas à la vie. Si c'est le cas, si nous pensons que nous pouvons fabriquer notre repentance, cette repentance sera certainement due à une tristesse selon le monde et qui ne nous conduit pas vers la délivrance et vers la vie. Nous connaissons tous des gens autour de nous, dans son travail, qui sont conscients du mal dans lequel ils vivent. Ils ont du remords. Un mal qui les fait souffrir. Ils souffrent et ils désirent certainement en être délivrés pour trouver ou retrouver une paix, un bien-être. La Bible ne nous parle pas de cette repentance-là. Si la repentance, l'objectif est d'être bien soi-même, ce n'est pas la repentance de la Bible. Si cette repentance pense seulement à mon bien-être dans ce monde, c'est une repentance de la chair et cette repentance ne me fera que me détruire. Cette repentance ne mène pas à la vie. Alors lisons ensemble ce que la Bible nous dit sur la repentance telle que Dieu la voit. Et vous savez, on revient toujours à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés. » Oh là là, l'apôtre Paul est en train d'attrister les gens, les frères et sœurs, des chrétiens qui sont attristés. « Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde accuse Dieu, accuse le monde. Mais la tristesse selon Dieu condamne la chair, crucifie la chair. Ce passage nous montre d'une manière claire que la véritable repentance est celle qui naît de notre relation intime avec Dieu. Plus nous nous approchons de notre Dieu à travers son Fils Jésus, plus son Esprit nous éclaire sur le gouffre qui nous sépare de notre Créateur. Ce rapprochement indispensable nous fait entrer dans une tristesse qui nous mène vers la véritable repentance, qui à son tour nous fait découvrir le sens profond de son pardon, rendu possible par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et in fine, et à la fin, mène vers la véritable délivrance, vers la vie. Vous voyez, bien, mes frères et sœurs, la repentance n'a aucun rapport avec le formatage du milieu évangélique, qui nous fait croire, et ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans, entre guillemets, dans le milieu évangélique, qui nous fait croire que si nous répétons les mêmes formules évangéliques tous les dimanches, ou même tous les jours, nous serons pardonnés. Et en nous le confirmant entre nous, et on se fait plaisir. Mon frère, t'as confessé, t'es pardonné. Mais un pardon qui n'est pas issu d'une tristesse n'est pas pardon. Il n'y a de pardon que pour des confessions issues d'une conviction profonde et une tristesse réelle vécue. Sinon, quel est le sens du pardon? Comment pourrais-je recevoir un pardon sur quelque chose dont, au fond de moi-même, je ne suis pas convaincu que c'est une erreur ou que j'ai fait du mal? Mais parce que seulement, on m'a appris de dire, de demander pardon. Et cette sainte tristesse, oui, je dis bien cette sainte tristesse, est le fruit de notre communion avec le Seigneur, qui nous dévoile la réalité de notre cœur par son Saint-Esprit. C'est ainsi que par l'Esprit du Seigneur, nous pouvons porter des fruits dignes de notre repentance et devenir, et là j'arrive à la deuxième parabole, et devenir des lampes. Voilà le sens, encore une fois, de la parabole des lampes, avec des lumières pour celles et ceux qui nous entourent. C'est le sens de la deuxième parabole de la lampe. On ne peut plus nous cacher, même si on essaie de nous cacher, même si on ne parle pas, autour de nous, ils voient Christ en nous. Car nous devenons des lampes et contiennent de l'huile, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, qui témoigne du Seigneur et éclaire les autres. Il ne faut pas nous tromper, mes frères et sœurs. La source, c'est notre Seigneur. Le cheminement, c'est notre Seigneur. L'aboutissement, c'est notre Seigneur. Dans ce cheminement, nous nous effaçons par la force des choses. Plus nous cherchons le Seigneur, plus par la force des choses, nous nous effacerons. Pour laisser de plus en plus de place au Seigneur. Jean-Baptiste disait à ses disciples, par rapport au Seigneur Jésus-Christ, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est pas si Jean-Baptiste le dit, qui suis-je? L'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates 2.20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est dans ce panorama, mes frères et sœurs, que s'inscrit notre parabole, dont fait l'objet le message d'aujourd'hui. C'est-à-dire la parabole de la semence qui croît avec un chapeau sur le « i » et qui porte des fruits par la suite. Le message que véhicule cette parabole qu'on trouve dans Marc 4, versets 26 et 29, est un message double. C'est un message de consolation et d'exhortation. Marc nous présente cette petite parabole, d'ailleurs, qui est la seule qu'on trouve dans les évangiles chez Marc, cette petite parabole de la semence, qu'aucun évangile ne mentionne, il est question de royaume de Dieu qui est semblable à une semence qu'on plante, qui croît et qui porte par la suite des fruits qu'on vient récolter. Précisons d'abord que la notion de royaume de Dieu n'a rien à voir avec la vision judaïque ou musulmane. Elle ne s'inscrit pas exclusivement dans le futur. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens, car elle intègre le présent aussi. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Autrement dit, Dieu veut régner en nous, en chacun de nous. Il veut établir son règne en nous. Le royaume de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Et je dis ça en regardant Matthéo, parce qu'on discute. C'est pas pour demain, c'est aujourd'hui, maintenant. Il n'est pas lié à une zone géographique, pas à une réalité, mais c'est une réalité spirituelle qui nous dépasse, que la tête ne peut pas expliquer ou comprendre. Cela est hors du temps et hors de l'espace. Le royaume de Dieu est le règne de Dieu dans nos vies, tout simplement. Lorsque nous sommes en harmonie, bien évidemment, avec sa volonté. Le royaume de Dieu se trouve dans notre cœur. Il se transporte là où nous allons. Quand vous sortez d'ici, mes frères et sœurs, vous partez avec le royaume de Dieu. Vous êtes avec le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous demande de recevoir le royaume de Dieu comme des petits enfants. Un petit enfant, quand tu lui dis, j'ai moi dans ma poche un bonbon, il va croire. Nous, un bonbon, oh, je ne suis pas sûr. Vous êtes sûr? Vous voyez? Recevoir le royaume de Dieu d'une manière simple, comme un petit enfant. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Continuons à utiliser notre rationalité, poser les questions pourquoi, etc. Le Seigneur est en train de dire, il est là, le royaume de Dieu. Arrêtez! Recevez-le, le royaume de Dieu, simplement. Il est bien question de foi et de confiance dans cette parabole. Tout simplement. S'il faut résumer cette parabole, c'est la foi et la confiance. Cette foi et cette confiance se nourrissent de notre relation avec Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Ce royaume de Dieu qui débute dans notre cœur ne s'arrête pas. Il va continuer en atteignant sa perfection quand le Seigneur viendra chercher son Église. Et encore une fois, je ne parle pas de bâtiment. Je parle des frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur. Comme notre Seigneur et Sauveur. Oui, ce royaume de Dieu va atteindre la perfection que le Seigneur viendra chercher son épouse, la Bible nous dit, c'est-à-dire l'Église, pour régner éternellement dans une nouvelle terre et nouveaux cieux. Voilà ce qui nous est promis. Cette promesse est annoncée d'abord par Ésaïe, chapitre 65, versets 17 et 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem, et bien évidemment, il s'agit de la Jérusalem céleste, pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Cette prophétie, cette parole annoncée par Ésaïe est confirmée dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, nous lisons, ça confirme ce que Ésaïe a dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On est appelé à cela, mes frères et sœurs. Ne réduisons pas la vie chrétienne juste à des choses du jour au lendemain comme ça, mes besoins matériels, etc. On est appelé à régner par le Seigneur dans une nouvelle terre, un nouveau ciel. C'est grand. Il s'agit ici. Je reviens à notre parabole. Il s'agit ici, dans cette parabole, d'une personne qui jette de la semence sur la terre et qui s'en va et ne revient que temps de la moisson. C'est ce que nous lisons. Il s'agit d'une semence, on a l'impression qu'il croise sans qu'on sache comment. L'homme qui jette la semence sur la terre semble s'absenter par la suite. Son absence couvre toute la période pendant laquelle la semence germe et croît et porte du fruit. Le propriétaire apporte bien la semence pour les semailles, mais en apparence, il ne s'en soucie plus. Au contraire, il se met à dormir, à se lever de nuit et de jour, comme s'il n'avait plus rien à faire avec. On peut partir sur le fait, en harmonie avec les deux paraboles précédentes, on peut partir sur le fait que l'homme de notre parabole est la même personne que le semeur de la première parabole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur qui a commencé l'œuvre quitte la scène pour ne revenir qu'à la moisson. Entre-temps, la semence croît toute seule et il y a l'apparence qu'il n'y s'y intéresse même pas. Pourquoi le propriétaire est-il en apparence aussi insouciant et inactif? La réponse est réjouissante, mes frères et sœurs. Oui, elle est réjouissante.
C'est parce qu'il sait qu'il y a dans la semence une force intérieure qui se déploie en vie nouvelle. Et c'est ce que nous avons à apprendre ici. Et ça va se confirmer avec la quatrième parabole sur le grain de senvé, le grain de moutarde, qui est l'œuvre de la croix en nous, c'est-à-dire la mort et la résurrection. En semant la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est semé, c'est-à-dire celui qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui est semé contient de façon cachée la vie en soi. Nous, les humains, on ne les voit pas, on voit les apparences, on ne peut pas aller dans les secrets. Il est indiscutable que la semence est bien la parole de Dieu, comme dans la première parabole du semeur. Cette parole est esprit et vie. Je ne fais que lire Jean 6, verset 63. Et elle opère, comme elle l'affirme, 1 Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Rappelons-nous que cette semence est semée sur une bonne terre. N'oublions pas cela. Si son accroissement ne dépend pas de nous, son accueil, sa réception et son entretien dépend de nous. Et on l'a assez évoqué ce matin, parlant de prière et de méditation. Si mes frères et sœurs, nous n'avons pas de vie de prière, si nous n'avons pas de vie de méditation, la terre, nous ne nous occupons pas de la terre. Nous ne nous occupons pas de l'entretien. Dieu s'occupe de la croissance. La première parabole du semeur demande mon adhésion et mon engagement sérieux en tant que chrétien. Nous attendons que Dieu fasse tout pour nous. Il nous a donné la liberté de décider aussi de le chercher. C'est la seule chose que nous pouvons faire. La parabole de la semence qui croit, par contre, ne dépend pas de moi. Il y a donc à la fois de la consolation et de l'exhortation. Dans la parabole du semeur, nous avons vu tous les ennemis qui s'opposent à la réception de la parole dans le cœur de l'homme, d'où les images des oiseaux, des épines, du soleil brûlant et autres choses semblables. Malgré tout cela, la parole de Dieu comporte en elle une puissance, en sorte qu'elle produit ce pourquoi elle est envoyée. Ésaïe l'exprime bien. Parce que cette parole, elle ne retourne jamais à Dieu sans faire son effet. Quelle pensée consolante! La parole de vérité de l'Évangile porte du fruit et croît. Et cela dans le monde entier. Et même si l'inimitié de Satan est grande et la faiblesse des serviteurs du Seigneur est immense, la parole de Dieu poursuit son chemin victorieux. Dans les premiers jours du christianisme, nous apprenons dans Actes 12, 24, par exemple, Actes chapitre 12, 24, que la parole de Dieu croissait et se multipliait. Malgré les persécutions, cette parole était annoncée par des chrétiens qui ont la vie qui opère en eux. Je dirais même, grâce à la persécution, la parole croissait et se multipliait. La parole de Dieu opère dans le secret des cœurs. Nous ne pouvons pas maîtriser ni le processus, ni le temps qu'il faut à ce processus pour agir, opérer. Nous le découvrons seulement quand les fruits apparaissent. Et il faut bien que les fruits apparaissent. Déjà, le prédicateur de l'Ecclésiaste signalait l'œuvre cachée de Dieu. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous avons donc toute raison de faire confiance en la puissance de la parole de Dieu, qu'elle possède par l'action du Saint-Esprit une force inestimable. Cela nous conduit à une exhortation qui se trouve pour nous dans cette parabole. Cela ne dépend pas de notre travail, ni de nos efforts, ni de notre connaissance théologique. Cela ne dépend pas de notre travail, mais cela dépend de ma proximité avec le Seigneur. seulement de ma proximité avec le Seigneur. Comme Paul et Apollos, nous ne sommes dans le meilleur des cas que des serviteurs, des instruments que Dieu utilise, soit pour planter, soit pour arroser. Mais celui qui donne l'accroissement, c'est Dieu. Combien nous l'oublions facilement et nous nous attribuons une certaine importance à nous et à notre travail. Ce qui, dans la parabole, paraît être de l'insouciance et de la négligence, en réalité, c'est tout simplement de la confiance. Dans une vraie humilité et une vraie dépendance, le Fils de Dieu exprimait les paroles de Dieu par sa bouche et par sa vie. Pendant son ministère, le Seigneur ne s'octroyait jamais les paroles à lui, mais il disait toujours « Je parle au nom du Père ». Pourtant, lui, qui est la parole vivante de Dieu, s'est humilié au point de proclamer ce qu'il disait n'était pas ses paroles, mais celles de celui qui l'avait envoyé. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et encore plus loin. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il est toujours question de communion. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Y compris ceux qui étaient autour de lui et qui considéraient le Seigneur comme le Fils de Dieu. Dieu, peut-être consciemment ou inconsciemment, le Seigneur Jésus dans son humilité dit, mais c'est Dieu qui le fait. Je ne suis qu'un intermédiaire. Il s'est habillé en tant que fils d'homme, lui qui est le Fils de Dieu. C'est aussi à Dieu le Père que le Seigneur remettait les résultats de son travail, de son œuvre, chez ceux auxquels il avait donné ses paroles. Jean 17, 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il rendait toujours compte de ce qu'il fait au Père. Est-ce que nous rendons compte à Dieu, à notre Seigneur, de ce que nous vivons et de ce que nous faisons? Et maintenant, dans Jean 17, versets 13 et 14, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Si tels étaient les sentiments de notre maître d'humilité, serviteur, combien plus de tels sentiments devraient nous caractériser, puisqu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et c'est l'expression préférée de Didier, nous ne sommes rien. La parole de Dieu répandue d'un cœur droit, c'est tout ce qu'il faut. Un cœur droit. Nous sommes appelés à chercher le Seigneur avec un cœur droit. Elle s'occupe d'elle-même, cette parole, car elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Ainsi, notre parabole ramène le royaume de Dieu à ce seul point que je vous ai résumé tout à l'heure, faire confiance à la puissance de Dieu qui est mise dans la semence. Aujourd'hui, dans la chrétienté, et là je suis obligé de faire un constat, ça nous aide dans notre avancement avec le Seigneur, ça nous aide pour nous remettre en question, ça nous aide pour ne pas tout mélanger. Aujourd'hui, dans la chrétienté, cette confiance a largement disparu et fait de plus en plus de place de l'activisme, en s'appuyant sur un marketing spirituel qui flatte les égos. Je ne vous apprends rien, mes frères et sœurs, mais vous remarquez que la chrétienté devient de plus en plus un lieu d'épanouissement en se transformant en club avec le titre vendeur église, où chacun doit trouver son compte. Le bien-être devient le maître mot, au point de supprimer tout ce qui peut remettre en question la chair rebelle qui ne cherche que sa propre satisfaction. Tous nos efforts que nous pensons devoir ajouter à l'activité de la parole de Dieu ne font qu'entraver son efficacité et des fois sans nous en rendre compte. De chaque côté émergent d'autres idées pour développer l'Église et se développer soi-même. Et nous sommes appelés à lutter contre cela. C'est la tentation qui se présente devant l'Église et la nôtre. L'Église devient une organisation qu'on peut développer en déployant des techniques et des stratégies économiques du monde. On établit des prévisionnels, on établit des outils économiques pour les réaliser. Et on tend vers et on appuie ça sur la parole de Dieu. Prions pour, mes frères et sœurs. Terrible. On se soucie de l'image de marque de l'édifice dans son environnement. On développe des partenariats avec des acteurs locaux dans le but de se faire accepter et de se développer socialement et économiquement. Vous allez me dire, quel mal dans tout ça ? Justement, c'est tout le mal. Parce que derrière ça, quel est l'objectif ? On cherche à recruter des dirigeants charismatiques et qualifiés selon des critères du monde pour développer notre organisation. On remplace l'enseignement biblique par des pratiques attractives, comme la musique du monde. Ben oui, il faut bien attirer la jeunesse et la fidéliser par la suite, non ? Il faut remplir nos églises. Adaptons-nous. On enlève tout ce qui pourrait perturber les partisans, comme les messages de repentance et de dénonciation du péché. On s'empêche de dénoncer le péché. Il faut garder mon frère et ma sœur. Il ne faut pas les blesser. L'église va se vider. Comment pourrais-je payer le pasteur ? Comment pourrais-je payer les travaux ? Et j'ai quand même un budget. Vous vous rendez compte ce qui nous présente devant l'église comme tentation ? Mes frères et sœurs, l'église n'est pas une organisation. L'église n'est pas une entreprise faite de main d'homme. Les frères et sœurs ne sont pas des consommateurs. On ne transige pas avec la parole de Dieu, même si ça coûte que l'église en tant qu'édifice n'existe plus. Notre confiance doit être placée uniquement sur la puissance de cette parole qui fait son travail par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous tourner à l'expertise humaine dans les domaines de la psychologie, des affaires, de la politique et du divertissement, et tous ces éléments-là, pernicieusement, petit à petit, et je peux vous le confirmer, ont déjà intégré l'Église. L'Église n'est pas un lieu de divertissement. L'Église est un lieu de consécration. C'est-à-dire, il y a bien des sacrifices. Et ça coûte. Dans notre parabole, même si l'homme a été absent tout le temps de la croissance de la semence jusqu'au fruit, il ne faut pas interpréter cela de travers, comme étant de la négligence. Pas du tout. Certes, cette manière d'agir pourrait donner cette impression comme s'il ne s'intéressait ni à son champ ni à son fruit. En fait, c'est tout le contraire. Il attendait le moment où le fruit allait arriver à pleine maturité. Mes frères et sœurs, ça nous concerne à titre individuel en tant que chrétien. Le Seigneur attend que le fruit arrive à maturité. Nous sommes ce champ et la semence est semée en nous. Tenons-nous fermes ensemble dans la confiance, dans la patience et surtout dans la consécration. Et nous ferons partie de la grande moisson. Oui, j'ai envie du fond de mon cœur de faire partie de la moisson. C'est ça l'objectif. Ayons confiance en Dieu. Courons derrière notre Seigneur pour le saisir. Car il nous a saisis le premier, comme le dit l'apôtre Paul. Il n'y a rien de plus terrible, mes frères et sœurs, que de rater la cible. Il n'y a pas plus terrible. C'est la perdition éternelle. Il n'y a rien de plus terrible que de bien commencer et mal finir. Ayant confiance en Dieu, laissons-le nous parler par son esprit. On a assez parlé ce matin, beaucoup même, dans la prière, la méditation. Il veut nous parler, d'ailleurs, le Seigneur veut nous parler. Pour cela, il nous donne rendez-vous. Je vous l'annonce. Le Seigneur nous donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous. Vous savez quand ? Tous les jours. Il nous donne rendez-vous tous les jours à travers la prière et la méditation. Il nous invite vers lui. Venez, je vous attends dans la prière et la méditation. Il nous aime tellement. Vous rendez compte ? Il nous aime tellement qu'il accorde des rendez-vous, vous savez quoi ? Pas collectif. Eh bien, vous savez quoi ? Individuel. Il dit, il nous aime tellement qu'il veut nous recevoir un par un, chacun, tout seul. Il nous laisse le choix du lieu du rendez-vous. Il dit, peu importe, où vous voulez, je ne vous impose rien, choisissez les lieux qui vous conviennent, je vous attends. Il nous aime tellement, comme je dis, il nous laisse la liberté de choisir le lieu du rendez-vous. Il nous demande seulement une chose. Il nous demande seulement une chose, c'est de venir vite. Non, très vite, car ça fait longtemps qu'il nous attend. Il nous demande de venir avec notre cœur tel qu'il est, dans l'humilité, la sincérité et surtout la confiance. Il ajoute, vous ne serez pas déçus. Le Seigneur ne rate jamais ses rendez-vous. Il est toujours à l'œuvre. Il nous attend tous les jours, mes frères et sœurs. Alors, soyons au rendez-vous. Que le Seigneur nous aide. Amen.